auditeurs et nos auditrices, c'est la revue de presse.
Khoya Arslan Mahbabik, bonjour, salam. Radio Galère présente
Les Haragas de Marseille.
Patatou, patatou, patatou. Bienvenue dans l'émission Haragas en compagnie de Kamar et Arslan. Haragas,
patatou,
patatou, patatou,
patatou, rien.
Revue de presse,
Bled Mickey ou le Khorté.
Et ça se passe tous les jeudis de 16h à 18h. Salam alaikum, Khoya Arslan.
Alaikum salam, Khoya Kamar. Où est-ce que tu as?
Très bien, la base. Alors, comment t'as passé ta semaine?
Ça va, comme tu as fait en Oda.
Qui est mal Algérie?
Tout à fait.
Émission Araga, dirigée par Kamar Idir. Revue de presse halal sur des sujets haram.
Salam alaikum, marakoum à Jumaat al-Haraga na fi da'at galer.
L'émission Haraga, la voix des sans-voix, des échoués de la vie, elle fait appel à la rue qui la réinterpelle.
Et vous allez vous régaler avec vos micros trottoirs.
C'est une revue de presse halal sur des sujets haram.
N'oubliez pas, vous êtes avec les Haraga de Marseille, Bakhir al-Haraga.
L'émission phare de Radio Galère, tous les jeudis,
de 16 à 18h, nous sommes à Rabia Bonjour, bonsoir, les Rakoum aux États-Unis, à la Banna Wintouma, à la Belkombina. Azoul à ceux qui nous écoutent au Canada, parce qu'on a eu des appels du Canada, surtout la communauté berbère qui est très 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 forte. Sahar Mdankoum, Ya Jumaat al-Khair. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Bien. Alors, l'émission d'aujourd'hui est consacrée aux femmes du monde. Les femmes tawana, ta le Maghreb, d'abord ta l'Algérie, ta tous les mamans. On leur souhaite bonne fête. Inch'Allah, mais qu'on ait le khair, les commentaires. Donc, l'émission va commencer dans un moment avec des entretiens qu'on a réalisés avec d'abord une femme égyptienne. Cette femme qui est venue de Monaco pour assister à un rassemblement d'Égyptiens, de la communauté égyptienne, devant la préfecture de Marseille. Et on a profité de l'interviewer et de vous donner des informations de la Palestine, de l'Égypte, la position de l'Égypte, et c'est tout. Voilà. Après, il y aura d'autres manifestations sur le logement. Il y aura des femmes, journée de la femme mondiale. Donc, et d'autres choses. Hagda, je ne vais pas vous divulguer tout ce que vous allez écouter. Je vous dis bonne écoute. Restez avec nous. Donc, vous allez vous régaler pendant 2 heures. Ma Jumaat al-Haraga. Ha Ramadankoum. L'Irakou Baïd, 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 à ceux qui nous écoutent aux États-Unis et au Canada. Même une fois, ils nous ont appelés de Finlande. Donc, Ratahlilik. Alors, bien sûr, nous vous bonsoir. C'est pour ça que je vous dis bonsoir. C'est la nuit chez vous. Hagda, allez, bonne écoute et vous allez vous régaler pendant 2 bonnes heures avec la compagnie des Haraga. Bonne écoute.
C'était pour Monsieur Taboun. Musique, Aïdir.
قبلو خلاه في تسمع ما كنت جئت لا وعزيز وعلاه كالم على يا نسي
الحق الأجل وداه الله يرحم الحراشي شعر خلاك لمو بيان كل ما نشوف نتفكر وتسيل دمعة العيان يا كلام صحيح يعبر على هموم هاد الزمان راسو عالمليح يكبر هذا كلامي بالزمان الله يرحمنا رباه داك يحبوه الغش مني تنكون معاه في خلوة ما ننتشي مني نكون معاه في خلوة وما ننتشي
غنى بنو خلاه في تسمع ما تنسى شي لا وعزيز وعلاه كالم على يا نسي
الحق الأجل وداه الله يرحم الحراشي ميزني فلطر خفيف ما كاين حد بحالو حوس مدون وريب ياك تكرهم في قوالو رصينو في العقل ضريب شهد علي فعالو وش خلاياك صحيني حول خير ديما في بالو كلامو خدمو بهواه خيالو ما ينتشي نبقى ديما نهواه في بحالو ما نلقاشي نبقى ديما نهواه في بحالو ما نلقاشي
غنى بنو خلاه في تسمع ما تنسى شي يا وعزيز وعلاه كالم على يا نسي
الحق الأجل وداه الله يرحم الحراشي عندك شعر خلاك لمو بيان كل ما نشوف نتفكر نسيل دمعة العيان يا كلام صحيح يعبر على هموم هاد الزمان راسو عالمليح يدبر هذا كلامي بالزمان الله يرحمنا رباه يا كيحبوه الغاشي تمنيت نكون معاه في خلوة ما ننتشي تمنيت نكون معاه في خلوة وما ننتشي
غنى بنو خلاه في تسمع ما تنسى شي يا وعزيز وعلاه كالم على يا نسي
الحق الأجل وداه الله يرحم الحراشي
غنى بنو خلاه في تسمع ما تنسى شي
يا الحق الأجل وداه الله يرحم الحراشي
غنى بنو خلاه في تسمع ما تنسى شي يا وعزيز وعلاه كالم على يا نسي
الحق الأجل وداه الله يرحم الحراشي
غنى بنو خلاه في تسمع ما تنسى شي يا وعزيز وعلاه كالم على يا نسي
الحق الأجل وداه الله يرحم الحراشي
غنى بنو خلاه في تسمع ما تنسى شي يا وعزيز وعلاه كالم على يا نسي
الحق الأجل وداه الله يرحم الحراشي
غنى بنو خلاه في تسمع ما تنسى شي يا وعزيز وعلاه كالم على يا نسي
الحق الأجل وداه الله يرحم الحراشي
غنى بنو خلاه
Mounji, bonjour.
Bonjour, Edir, qui est la classe.
La base, Alhamdoulilah. Écoute, la situation elle est en train de s'aggraver entre les deux pouvoirs, pouvoir algérien et pouvoir français. Est-ce que vous pouvez nous donner votre avis en tant qu'Algérien ?
Alors, en tant qu'Algérien, moi je trouve que, déjà, nous, dans le Hirak, on a demandé très longtemps déjà qu'on coupe ces relations insidieuses, ces relations pas très claires entre les deux pouvoirs. Parce qu'en fait, ce qui se passe entre les deux pouvoirs, c'est il est un peu dans le merta. c'est-à-dire des politiques qui pas claires. On ne sait pas vraiment le bilan d'échange entre les deux pays, c'est quoi, les relations, sur quelles relations vraiment elle est basée. C'est à beaucoup de confusion. Lorsqu'on a les dignitaires algériens qui vont se soigner librement, qu'ils ont des accords entre eux pour pas de visa, qu'ils font ce qu'ils veulent, tout ça. Et là, comme par hasard, sous la pression, on peut avancer, sous la pression du Hirak, parce que c'est le Hirak qui a sorti un petit peu ces énergumènes là de trucs, qu'ils ont commencé à menacer tout ça, et la France, elle était obligée, quelque part, de sévir sur les soi-disant influenceurs qui ont fait des menaces de mort contre des gens en France. Ça, c'est le droit, ça s'appelle l'ordre public. La France, elle est obligée d'intervenir. C'est, donc, dans n'importe quel pays, on menace pas les gens de mort ou de quoi que ce soit. Et là, on a vu qu'il y a une autre démarche qui a été entreprise, sous la pression, évidemment, parce que d'un côté, on a l'extrême droite française, avec Retailleau et tout ça, qui essaie de se donner, en fait, c'est pour des raisons de communication interne, de dire voilà, on va sévir contre l'Algérie, nanani, la question des QTF, des gens qui sont papés, tout ça. Et l'Algérie, depuis toujours, elle refuse constamment de récupérer les sans-papiers en France, tout simplement parce que ça ne sert pas à sa politique. Elle, sa politique, c'est de faciliter, depuis la rue du Hirak, de faciliter le départ de la jeunesse algérienne, et elle ne veut pas les voir revenir. Si elle commence à les recevoir, c'est un mauvais signal pour les gens qui veulent partir. Ils vont dire, on va partir, si on est arrêté, ils vont nous expulser, ça ne marche pas. Mais lorsque l'Algérie donne le signal qu'elle ne va pas récupérer son papier, ils disent, on va partir, l'Algérie ne va pas nous récupérer, on va pouvoir peut-être faire le papier en France, tout ça. Et ça, ça sert à la politique algérienne, et qui est une politique aussi de pression un petit peu migratoire, comme a été utilisée par d'autres régimes, le Kadhafi à son époque, et même Mohamed VI à un moment donné, qui a ouvert un petit peu les vannes au niveau du nord du Maroc pour mettre pression sur l'Espagne. Ça, c'est les régimes dictatoriaux, ils utilisent un peu la population comme de la char à canon, ils les envoient. Maintenant, la chose passe un peu plus vite, c'est-à-dire la petite guéguerre passe en fait. Échappe un petit peu, je pense, aux deux parties. Parce que la pression derrière, elle est réelle. Il y a une pression derrière. Et le problème, maintenant, on ne sait pas ce qu'il y a dans la besace des deux régimes. On parle de l'accord, par exemple, 68. Il faut savoir que l'accord 68, il est caduque. C'est-à-dire, ça n'a jamais été respecté. Et il ne concerne pas le Djalia, en fait, la diaspora algérienne en France, la concerne très peu. Ça donne très peu d'ouverture. C'est-à-dire, même sur certains points, d'après spécialistes de ce droit-là, sur certains points, il est même défavorable aux étudiants algériens, par exemple. Sur les étudiants algériens, les accords de 70, maintenant, avec l'évolution de la législation, ils sont devenus défavorables aux Algériens. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on a vu dans les communiqués, en fait, après l'expulsion, parce qu'il y a eu en fait deux incidents, c'est qu'on a refusé à des dignitaires algériens de rentrer. Et c'est pour ça, en fait, il y a eu la convocation de l'ambassadeur de France à Alger. Et en fait, parce que c'est pas parce qu'ils ont dit que oui, des Algériens qui ont été maltraités. Les Algériens étaient toujours maltraités, la population. Ouais. C'est parce qu'il y a des dignitaires qui ont été Exactement. Refusés. Ouais. Voilà. Et là, on voit aussi qu'il y a deux jours, la femme de l'ambassadeur d'Algérie au Mali, qui venait à Paris pour faire le shopping, bien sûr pour le début du Ramadan, et du coup elle a été refusée, soi-disant parce qu'elle n'avait pas assez d'argent sur elle pour rentrer alors qu'elle avait la carte de crédit de son mari. En fait, c'est Retailleau veut pousser le gouvernement français pour sortir un petit peu comme le pare-feuillard, comme le rempart contre... En fait, c'est l'algérophobie de l'OAS, de l'extrême droite qui ressort. Et là, sur ce point-là, depuis le départ de Hirak, on dit qu'il faut clarifier la situation entre les deux pays. Il faut clarifier les politiques. Maintenant, on souhaite que ça va plus loin et que l'Algérie clarifie sa position. Comment la France, combien la France paye pour le gaz, pour le pétrole, les intérêts de Total. Et ça, on veut que les grands patrons s'expriment là-dessus. Je viens de juste pour te donner une petite information, je ne sais pas si tu l'avais vu. Il y a Hollande qui dit oui, il faut sévir contre l'Algérie, tout ça, tout ça. François Hollande, en 2014, j'ai la vidéo, je te l'enverrai, en 2014, il va rencontrer Bouteflika. pendant la manifestation des enfants de la jeunesse de Aïn Saleh contre le gaz de schiste, il vient obtenir, en même temps en France, il interdit le gaz de schiste, il va obtenir pour Total une concession de gaz de schiste à Aïn Saleh. Et il sort de la rencontre avec Bouteflika, que tout le monde savait qu'il était que c'était un cadre. Eh bien, il dit que j'ai trouvé le président algérien d'une grande alacrité, il utilise ce mot français de bon français, pour dire que c'est d'une grande vivacité d'esprit. Personne ne le croit, mais c'est une voile pour une mission, c'est un peu, c'est la légitimité extérieure qui a été donnée à ce régime-là. Du coup, pour nous, il faut clarifier la situation, nous espérons que cette situation soit clarifiée.
Il y a une chose qui me tracasse. Il y a un monsieur qui s'appelle Rachid Nakaz qui a été mis en prison en Algérie et c'est le seul qui est en train de défendre, par rapport aux Algériens, c'est le seul qui est en train de défendre le pouvoir algérien. Vous trouvez normal?
Rachid Nakaz, bon, on l'a soutenu quand il était en prison, tout ça, parce que quelles que soient les idées, ne sont pas pour qu'on mette les gens en prison. Ça, c'est nos valeurs à nous, on défend nos valeurs. Par contre, Rachid Nakaz a toujours été un petit peu une façon de dire, d'utiliser, par le pouvoir. Pour moi, c'est une personne qui est achetable. Malgré tout ce qu'il a souffert et tout, maintenant on va essayer de le remettre sur le devant de la scène, essayer d'utiliser un petit peu sa l'autorité, mais personne n'est dupe en fait de ces utilisations-là. Pour moi, Rachid Nakaz, il joue le jeu qu'il avait joué auparavant quand il a voulu participer aux élections, alors que tout le monde, tous les Algériens, savait que les élections étaient déjà truquées à l'avance. On ne participe pas dans des élections quand on connaît les résultats déjà à l'avance. Voilà.
Par rapport à la communauté, dernière question, la communauté algérienne, elle est inquiète quand même.
Parce qu'on n'a pas de contre-médias. On n'a pas des gens qui expliquent la situation. C'est-à-dire qu'on a un seul saut de cloche. C'est d'un côté les médias français qui sont aux mains de l'extrême droite, et ça c'est avec Bolloré et tout ça, et qui souffrent sur les braises. Pour pousser la société à plus de radicalisation et ça sert les hommes politiques qui ne trouvent pas des solutions réelles, parce qu'en fait en France, la France n'a pas vraiment de moyens de pression économique sur le pouvoir algérien. La seule pression qu'elle a, c'est qu'elle interdit aux dignitaires de venir et d'ailleurs les dignitaires algériens de venir en France pour leur bien, et d'ailleurs les dignitaires algériens ne ont pas attendu, on va pas se parler comme ça, on va coucher. Les Algériens n'ont pas attendu les dignitaires du régime algérien cet incident-là pour diversifier leur placement à l'étranger. Ils ont beaucoup de placements en Espagne et maintenant ils achètent beaucoup en Angleterre. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que le ministre des Affaires étrangères français a mis l'Europe dans le coup, si tu veux, si on peut parler ainsi. C'est-à-dire qu'il a poussé il a dit que la décision du visa, ça va être une décision européenne. C'est-à-dire qu'il voulait élargir un petit peu les taux en fait autour des dignitaires algériens dans un ultime effort de pression sur le régime. Voilà.
Donc là, s'ils ont d'autres pays où ils vont transférer l'argent du peuple algérien, c'est toujours le peuple qui va payer.
De toute façon, c'est une guerre qui ne sert à rien, les intérêts du peuple. C'est une guerre entre deux régimes et qui ne sert pas les intérêts de la France non plus. C'est les multinationales qui est en jeu, et je ne pense pas qu'ils vont arriver jusqu'à la rupture sur la question des hydrocarbures, parce que la France elle a énormément d'intérêts quand même là-bas.
Donc on va attendre un mois ce qu'il a dit Bayrou.
Je pense que ça va décompter avant, ils vont trouver une sortie de là. En fait, le régime algérien n'accepte pas le changement de position de la France sur la question de la Sahara occidentale. Et ça, bon, là, il fait passer les intérêts de sa propre politique devant les intérêts de sa propre population. Et c'est pas nouveau pour le régime algérien.
Merci beaucoup.
Merci, Royal.
Mounji Rouedji a interviewé lors de la manifestation pro-palestinienne militant sur sa position envers la France et l'Algérie.
Autant ce Rotaillou là qui est en train de de faire monter la sauce parce qu'il se prépare à un destin national, devenir un jour peut-être, il espère devenir président de la République, mais où est-ce qu'il va trouver ses électeurs? C'est des côtés des gens qui ont la nostalgie de l'Algérie française, des gens qui n'ont jamais oublié que l'Algérie est devenue indépendante, etc. Ça d'un côté. Donc du coup, devant un gouvernement complètement inexistant, devant un président Macron qui essaie de se rattraper par l'international et encore, etc. Et ce monsieur Retailleau et tous ses amis ont trouvé un grand boulevard pour s'attaquer. Normalement, c'est un ministre de l'Intérieur, ce n'est pas à lui de dicter ce qu'il y a lieu des relations entre l'Algérie et la France. Et ça d'un côté. Pourquoi? Parce qu'il y a absence de débat, il y a absence d'autorité en France, donc on le laisse faire. De l'autre côté, devant des difficultés, devant le gouvernement qui n'a aucune légitimité, la preuve c'est que en septembre 2024, Tebboune a recueilli qu'à peine 10% des suffrages, hein, encore. Hein. Donc, devant ça, il essaie de se refaire une sorte d'unité. Et cette unité, en montrant ses muscles devant l'État français, etc. Nous, on résiste face à un État qui nous attaque, etc. Mais en fait, les relations entre les deux États existent, elles existent encore, hein. Il n'y a aucun problème. C'est que, pas plus tard qu'il y a quelques mois, le président Tebboune parlait de Macron comme son ami, quoi. Hein, et qu'avec la France, il y a une destinée commune. Il disait comme ça, il y a une destinée entre la France et l'Algérie, parce que Kani Goulbelé, la France a quoi, Iqlimia, Kawiya, fi Europa, Hana, Kawa, Zahna, دولة قوية في إفريقيا تلاقاو هكذا يقول كنا تما راح تلعب دونك فينالمون نو ان تونك سيتوايان الجزائري بيان سور اون ني با ديب دو سا مي اون دوا كو ميم On doit quand même dénoncer la campagne actuelle de menée par l'extrême droite française et avec Retailleau contre l'Algérie, parce qu'il ne mène pas une campagne contre un pouvoir, sauf s'il dit des voix. Il mène une campagne contre les Algériens. C'est nous qui allons avoir des soucis demain ici, parce qu'ils sont en train de susciter une sorte de haine là, et demain, les passages à l'acte peuvent se faire. Hein, l'histoire de Metz, là, de quelqu'un qui est déséquilibré, on parle après, on réunit des officiels pour décider de ce que va être ce qu'on appelle les relations entre l'immigration et la France, etc. Mais en fin de compte, il considère l'Algérie dans son truc entier. Tandis que les officiels, demain, ils vont revenir. Hein. Ils prennent peut-être des avions privés pour venir. Hein. Voilà.
Et voilà. Pourquoi le silence de notre élite ici, le silence complet?
Oui, c'est bizarre. Ouais. Moi, je dénonce personnellement le fait de dire c'est bien fait pour ce qui leur arrive au pays. Là, non. Je dépasse, je n'irai pas jusqu'à dire ça. Non, parce qu'ils sont en train de s'attaquer à l'Algérie.
Exactement.
En tant que pays, en tant que nation, en tant qu'histoire, parce que cette histoire-là, elle est en train d'être remise en cause. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a, à l'occasion du 80e anniversaire des massacres de 8 mai 45, il y a un appel pour que, cette fois-ci, il y aura vraiment, on exige des autorités françaises de reconnaître les crimes contre l'humanité qui ont eu lieu à cette époque-là. Et là, on reprend les vieilles discussions comme quoi la colonisation, ça a aussi des effets positifs. Hein, des choses qui ont été condamnées par l'histoire, on continue ça. Donc les gens qui disent « Ah non, ils s'attaquent au gouvernement, nous on n'a rien à voir là-dedans », là je ne suis pas d'accord. Hein. Il y a même certains qui disent « C'est bien fait pour eux bon, », ils ne s'attaquent pas au gouvernement. Le gouvernement, il ne leur arrive rien du tout, hein, au contraire. Hein. Ils peuvent aller en Italie, ils peuvent aller, etc. Même ici en France, ils rentrent, mais ils s'attaquent à l'Algérie en tant qu'État. Quoi. Voilà. Et le silence ici, je pense que... Il y a une certaine gêne aussi dans si certains, quoi. Et moi nous, on continue à le dire et à le dire publiquement. Hein, voilà. Mmh. Et on reprend nos rassemblements pour l'Algérie à partir de...
Et, ouais. Et vous avez parlé de 1945. Il y a un seul journaliste, y compris de Villepin, qui est courageux, c'est Jean-Michel Apathy.
Jean-Michel Apathy qui fait un travail formidable. Hein, qui remet peut-être bientôt qu'il va être viré des plateaux. Hein. Il est en train de dire de bonnes choses. Quoi,
des vérités, carrément.
Ah oui, oui. Des vérités historiques. Ça veut dire que la colonisation, c'est un massacre. C'est une barbarie de bout en bout. Hein. C'est un caractère génocidaire. Lorsque Bruno Retailleau dit ça, c'est j'ai fait positif, on a construit des immeubles, etc. Et ils n'étaient pas construits pour les Algériens à l'époque. Ils habitaient les Gourbis. C'était pour les Européens. Les routes, ils ont été faites pour elles. C'est pas dans les montagnes en Kabylie, il n'y en avait rien du tout. Hein. Il y avait que la napalm. Hein. Donc il n'y a rien à dire. Hein. Ou les hauts plateaux.
Et les sas.
Et les sas, voilà. Et la torture, et les etc. Et les brigades, et les 8e armée, etc. Il n'y avait pas les bâtiments. C'était pour les Européens à l'époque. Hein. Même Alger, les quartiers européens, ils sont beaux, etc. Mais la Fatma ne va que pour balayer. Donc les aspects positifs, ils ont laissé des trucs. Non, au contraire, bien au contraire. En 62, quand ils allaient quitter, il y a eu la politique de la terre brûlée. Ils ont brûlé la bibliothèque universitaire d'Alger. Ils ont brûlé Oran. Et il y avait ça aussi. Hein. Voilà.
Ouais. Ben merci, Aziz.
Je t'en prie. Allez, merci.
Voilà. Aziz Ben Sadat, militant communiste.
Alors, Samh Ben Sadat, on m'a rappelé Yiswan. Nathija ala Rabbi, Inch'Allah, de l'Farh, de Sa'adi, de Marouah. الحمد لله أقلق النجمة عد أستغل إن شاء الله تمريلي من الخير وين يبغى نتجع نتسوي عتاك أقين أغتي في ظلب ونونا داخت عيون مستسمي نكون نخدم المجهود ونغاية الموزمة سورة مستدى تقيدي دانا كيدين دير عمري ورخذي مغيس يعني الشيخ يخدم الشواليس غرس يعني يخذ مينس نكغوري يخذ مينس سوراني هنا ملك راني قواق نغلط لا استمحل
Oh, je profite pour rendre hommage à Cheikh Al-Hasnaoui. La chanson s'intitule Tbeddel Zman. Elle est inédite. Elle a été interprétée lors d'une fête familiale à Paris en 1965. C'est une chanson d'espoir composée à l'indépendance de l'Algérie. Tbeddel Zman. Cheikh Al-Hasnaoui.
زمان سيدنا تبدل الزمان تبدل الزمان ونعود إن شاء الله فينا يوم نبرو من الجيران تبدل الزمان سيدنا تبدل الزمان تبدل الزمان ونعود إن شاء الله فينا نبرو من مسلم جالس مع أخوك راك تفهم تبقاش علي هايم هذا راهو وقت صلاح جو نبرو من الجراح تبدل الزمان زيدنا يتبدل الزمان يتبدل الزمان ونعود إن شاء الله في الأمان جو نبرو من حي قلبك يلزم بالقادة الحزين ويصيبك وقت الشدار معك يسلاح سيادنا نبرو من جرح يلزمنا الملقى وما تلقش بينا المفرقة ينفع شمال الزنقى يلزمنا نتحزم على الصراحة ونبرو من جرح تبدل الزمان زيدنا يتبدل الزمان تبدل الزمان ونعود إن شاء الله في الأمان نبرو من جرح كاملين شنهم بعلمهم بينين وحنا يا متخلفين بكل واحد بالمعصيرة في الآية المذكورة حنا القدام ماشي الزورة أغوونا بنا عورة والقمر وشويه الفضاح يوم نبرو من الجراح تبدل الزمان سيدنا يتبدل الزمان يتبدل الزمان ونعود إن شاء الله في الأمان برغم الجراح شمال الزنقى يلزمنا نتحزم على الصح الآية المذكورة احنا القدام ماشي الورا وهو نبنى عورا والخمر وشويه الفضاء يوم نبرو من الجراح بدل الزمان زيدنا يتبدل الزمان يتبدل الزمان ونعود ان شاء الله في الامان نبرو من
Quelle origine ?
Je suis égyptienne. J'habite à Monaco depuis 40 ans. Je m'appelle Nadia Ragab. Je suis la présidente d'une association à Monaco qui s'appelle Femmes d'Égypte, Femmes du Monde. Et aussi, je m'occupe de la communauté égyptienne à Monaco. Communauté égyptienne à Monaco.
Alors, parlez-nous un peu de votre travail là-bas avec les femmes.
Disons, on fait le rôle. On aide déjà les femmes dans leurs papiers à Monaco. que ce soit à Monaco ou en France.
Ouais.
Disons, c'est les papiers pour la sécurité sociale, pour l'aide sociale, pour faire les papiers, les documents pour faire les papiers. Parce que le problème que la plupart des femmes ne parlaient pas la langue. Et donc, on fait aussi le cours de langue française dans une école là-bas. Donc, c'est un petit lycée, c'est un lycée technique et on fait...
L'alphabétisation, quoi.
Voilà, oui.
عمال تجري قبلي وبحري تنزل وادي تطلع كوبري حود مرة وبعدين دوري ما تقول يا ابو رايح على فين صوتك يدوي وانت بتسوي صوتك يدوي وانت بتسوي والبعد يعني مرود تكوي والارض بصاك وانت بتسوي ما تقول يا ابو رايح على
Est-ce que c'est la première fois que vous êtes sorti pour manifester pour votre pays, l'Égypte ?
Pour l'Égypte, oui, c'est la première fois, mais à Monaco, j'ai fait plusieurs sorties pour le travail.
Pour ce qui concerne la Palestine ?
En tout cas, pour la Palestine, disons, nous, en tant qu'Égyptiens, on refuse catégoriquement les déplacements des Palestiniens de leur territoire. Et pour le président égyptien, Abdel Fattah el-Sissi, on le soutient de tout cœur. Tous les Égyptiens qui sont à l'étranger, il le soutient de tout cœur dans toutes les décisions qu'il prend pour ne pas déplacer les Palestiniens de leur territoire. Disons, nous, toutes les femmes égyptiennes, ce sont des femmes fortes.
Ouais. Bah oui.
D'accord ? Et je pense, et toutes les femmes arabes qui ont quitté leur pays, leur territoire, et ils sont venues ici en France ou dans n'importe quel pays étranger, ce sont des femmes fortes. Et ce sont des femmes qui portent vraiment un combat entre deux cultures pour élever leurs enfants déjà. Le combat de garder la culture, que ce soit égyptien, algérien, marocain, tunisien ou libanais, syrien, n'importe quelle nationalité, c'est des combats qu'on mène tous les jours pour que nos enfants gardent leur partie orientale.
L'Égypte, de toutes les manières, c'est le seul pays arabe qui garde le multiculturel. Il y a les coptes, il y a les chrétiens, il y a les juifs,
aussi.
Tout le monde vit là-bas.
On vit là-bas sans problème, on est côte à côte comme des frères et sœurs. Il n'y a pas de racisme, que ce soit dans la religion ou il y a même plus de 53 nationalités qui vivent en Égypte, question de religion. La question des religions, l'Égypte depuis plus de 50 ans, que ce soit chrétien, juif, moi j'ai grandi en Égypte, j'ai fait mes études là-bas jusqu'au que j'ai terminé la fac et j'ai jamais vécu indifférence entre un Égyptien et un Égyptien musulman et un Égyptien chrétien. On est tous des frères et sœurs, il n'y a pas de différence entre nous. on a tous la même culture. Chacun. La croyance, c'est quelque chose. C'est une relation entre nous et le bon Dieu. Ce n'est pas une relation entre moi et vous et l'un et l'autre. Non, c'est une relation entre moi et le bon Dieu. Chacun, il le vit comme il le voit, et comme il le sent, et comme il le croit. Donc on ne peut pas changer cette culture qui est en nous depuis extant. Quoi.
Et pourquoi pourtant l'Égypte, c'est un pays très fort, très très ancré dans sa culture. Il représentait les pays arabes. On disait à l'époque, Oum al-Arabe et Misr.
Elle est toujours, c'est toujours Oum al-Arabe, c'est toujours c'est Oum al-Dunya, c'est pas Oum al-Arabe fakat. Ah oui, oui, Oum al-Dunya, mais attends, mais c'est pour ça que je veux dire, on a plus de 53 nationalités qui vivent à l'intérieur d'Égypte depuis le printemps arabe, quoi. Et donc on vit tous pareil, quoi.
Et pourquoi quand on arrive en Égypte, moi j'ai visité l'Égypte, on arrive l'Égypte, après on apprend l'arabe.
Parce que c'est l'arabe égyptien, c'est une langue chantante. Voilà. C'est une langue calme. C'est une langue qui incite exactement des cultures, des théâtres, de disons les films égyptiens, ils font le parcours du monde, d'accord. Et donc moi disons quand je suis arrivée ici, c'est pas grave ça. Quand je suis arrivée ici, mes amis algériens, tunisiens, marocains, ils me disent on brûlait la nourriture quand, au mois de Ramadan quand on regardait les films égyptiens. Donc la langue arabe, elle est dans chaque maison, déjà mondialement. Elle est dans chaque maison. Donc quand on arrive en Égypte et on entend les Égyptiens, bah, déjà ici, que ce soit ici ou à Monaco, quand on parle égyptien, les gens ils tendent les oreilles pour dire de quelle langue vous parlez. Donc j'ai dit égyptien. Et il aime écouter cette langue chantant parce que c'est pas une langue agressive.
Non.
Disons, le pays du Maghreb, quand il parle l'arabe, c'est un peu agressive. Donc,
c'est
agressif, un peu fort. Fort. Et nous, on le parle comme une langue chantant. Justement, il y a le café-théâtre, il y a, disons, la culture en Égypte, elle est magnifique parce que. Et les chansons en Égypte, elles sont magnifiques. Quand on parle d'Om Kulsoum, jusqu'à aujourd'hui, quand j'entends Om Kulsoum, c'est comme hier. Hein, c'est Om Kulsoum, Abdel Halim. Exactement. Et n'importe qui, vous parlez avec d'Om Kulsoum, d'Abdel Halim, de Farid, de Warda, disons, les gens anciens, c'est une autre culture, c'est une autre vie. C'est quelque chose qui donne chaud au cœur. Je suis Ahlaouia. Je suis Ahlaouia, mais je n'ai aucun problème avec Zamalek. Je les adore tous. D'accord. Et c'est vrai, dans notre culture, c'est les deux plus grands clubs en Égypte, l'Ahli et Zamalek. Et on peut dire la moitié des Égyptiens, ils sont Ahli et l'autre moitié, ce sont Zamalek. Par contre, ils sont, même si dans le match on se bat, on dit des mots à ne pas dire, des choses comme ça, mais on s'aime tous. On s'aime tous.
Alors pour vous, Om Kulsoum, ça reste immortel.
C'est le top, c'est le top de top. Om Kulsoum, Abdel Wahab, Abdel Muttalib, tous ces gens-là, c'est une autre.
C'est des œuvres.
C'est des œuvres. Qui s'est terminé. Voilà, c'est comme Edith Piaf en France. Ouais. Voilà. Ah ben, certainement, parce qu'ils ont fait le tour du monde. Moi, je me rappelle que Om Kulsoum, elle a fait un événement ici en France en 67, quand on a eu pour faire l'argent pour l'Égypte. Et je me souviens, j'étais encore petite, j'avais que 7 ans, mais ça m'a resté en mémoire que une chanteuse égyptienne qu'elle fait le tour du monde pour amener l'argent pour l'Égypte.
Vous allez souvent en Égypte ?
Chaque année. Chaque
pour
année.
Ressourcer.
Chaque année pour voir la famille déjà, pour visiter tout ce qui est nouveau en Égypte, parce que l'Égypte aujourd'hui, ce n'est pas l'Égypte de 20 ans en arrière. C'est chaque année que je descends en Égypte, il y a quelque chose de nouveau. Bien entendu, l'Égypte d'aujourd'hui, même si il y a la pauvreté, mais chaque maison, il y a des miracles qui se passent dans ces maisons. Même s'ils n'ont rien, ils t'accueillent avec le cœur ouvert. Ils te présentent tout ce qu'ils ont à la maison pour le présenter, pour manger, pour boire, pour... Même si tu es un étranger, ils t'accueillent. C'est magnifique. C'est... L'Égypte aujourd'hui, c'est... Ben disons, on peut pas dire qu'on est à l'étranger et on rêve tous les jours à retourner en Égypte. Mais on est tenu par nos travail ici, par nos enfants ici. Et c'est pour ça que je descends qu'une fois à l'année en Égypte.
Donc vous rêvez de terminer votre retraite là-bas, votre fin de vie?
J'aimerais bien. Ouais. J'aimerais bien. Mais moi, je veux, vous voulez, et Dieu fait ce qu'il veut. On ne sait pas notre destin, où elle va nous amener. Mais moi, j'ai que mon fils, donc je reste avec mon fils ici. Et après, si je meurs quand je suis en voyage en Égypte, bah, Dieu merci. Quoi.
Alors, si on revient au président, bien sûr, on parle d'Égypte, il faut qu'on parle du président Sissi.
Non, Sissi, bien sûr.
Est-ce qu'il a changé un peu l'Égypte? Est-ce qu'il a une main de fer? Est-ce qu'il a...
Le président Sissi... Il a une main de fer. Non, je ne peux pas dire qu'il a une main de fer. La main de fer, ça veut dire qu'il n'y a pas de liberté. Il a la main de fer pour reconstruire notre pays. Il a reconstruit le pays. Même avec sa main de fer pour protéger notre pays, on est tous derrière lui. Tout le monde est derrière lui. Je suis en premier, derrière lui. Et je le défends. Il n'a pas besoin de défense de toute façon, parce que chaque décision, il le prend, c'est dans l'intérêt de notre pays.
Avant, on avait les femmes au premier plan en Égypte.
Oui.
Keltoum, que ce soit dans la culture, d'autres femmes qui militaient. Aujourd'hui, c'est rare de trouver une femme qui a sa place en Égypte dans la politique.
Si? Non. Aujourd'hui, on peut dire à l'époque de Sissi, il y a en 2022, il y avait l'année de la femme en Égypte. Et l'année de la femme, je pense, on a combien de ministres femmes? On a à peu près de 13 ministres femmes.
Donc presque la moitié.
Voilà. Donc non, la femme, elle a sa place en Égypte. La femme, elle est vraiment protégée en Égypte. Ce n'est plus l'époque où la femme, elle dépend que de l'homme. La relation homme et femme en Égypte ou dans la famille maintenant, c'est une relation complémentaire. Avant, c'était la femme, elle dépend que de l'homme. L'homme, c'est lui qui a le dernier mot. Mais aujourd'hui, la femme et l'homme, surtout la nouvelle génération, ils se complètent. C'est sûr que chaque règle elle a ses extraits, ses côtés extrêmes. Et ça, on peut dire... 80% d'Égyptiens aujourd'hui, les femmes elles sont libres. Les femmes, moi je me souviens en 99, il y avait une loi égyptienne qui dit qu'elle est restée jusqu'à 1999 et en 2000 elle était annulée, cette loi. C'est que les femmes ne peuvent pas quitter le pays sans l'accord de son homme, de mari. Aujourd'hui, quand il y a quelqu'un qui se présente et qui ne veut pas sa femme qu'elle sort du pays, il faut qu'il amène les deux personnes pour demander pourquoi. Et si l'homme, il exagère, il laisse partir la femme. Donc, la loi a beaucoup changé. La femme, elle a trouvé sa place. Que ce soit dans le national ou dans l'international, la femme, elle a sa place. La femme égyptienne, elle a sa place.
La femme égyptienne, elle a sa place. Égyptienne. Et la femme arabe en général, quelle femme qui vous inspire?
Moi, je vois vraiment les Libanais et les femmes libanaises en premier, après les femmes marocaines. Ils sont plus ouverts. Plus ouvert. Et la femme tunisienne aussi, les femmes algériennes aussi. Mais je pense que les Libanais, ils sont beaucoup plus indépendantes que les autres pays. Je les aime beaucoup, j'ai beaucoup de Libanais, amis Libanais.
Dernière, on va parler un peu des médias. On voit que quand on lit maintenant l'Ahram, c'est plus comme avant.
Il y a beaucoup de journaux qui sortent maintenant. Et après, Internet et les médias, disons, lus, elles sont beaucoup plus fortes que les médias écrits. Les médias écrits, les gens, ils avancent. ils avancent. Et plus qu'on avance, ben moi par exemple, j'ai l'Ahram en lecture média et j'achète plus le journal. Donc j'ai les médias et les médias, elles remplacent vraiment les journaux en papier en Égypte. Et l'Ahram inclut Gomorrah et l'Akhbar, c'est les trois journaux principaux en Égypte. Et après, il y a beaucoup d'autres maintenant. Plus que disons, la vie avance, plus que d'autres journaux prennent place.
Vous faites confiance au président Sissi ?
Bien entendu. C'est pas une question, ça c'est sûr et certain. Et je lui donne ma voix, je lui donne mon accord, je lui donne tout mon soutien pour prendre les décisions nécessaires pour protéger notre pays et pour protéger les Palestiniens surtout.
Rappelez-moi votre nom et profession.
Je m'appelle Farag Nadia, je suis assistante psychologique pour les personnes âgées.
Merci de m'avoir soigné.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.
وصفوا للصبر لقيته خل وكلام في الحب كلام في الحب يا دوب يا دوب القلب أغرب من قلبي يا روح على فيك ليالينا الحلوة في كل مكان
Alors Alors je suis Kamal Azer, le vice-président de l'association de la communauté égyptienne à Marseille.
Alors aujourd'hui, c'est une date qui reste gravée dans la mémoire des Égyptiens qui vivent à Marseille.
Bien sûr.
La manifestation, le rassemblement.
Oui, bien sûr, oui, c'est très important là pour nous, parce que vraiment il y a beaucoup de buts pour ça. Notre premier but, c'est de ne pas déplacer les Palestiniens de leur pays Gaza. Alors ça, c'est vraiment c'est un grand problème. Et de notre côté, là, de les déplacer chez nous en Égypte, là, ça, c'est un deuxième problème aussi. Parce que chez nous, en Égypte, oui, c'est vrai, oui, qu'on accepte tout ça, mais c'est leur pays. Parce qu'ils se déplacent en Égypte, alors fini, ils ne vont plus revenir à leur pays. Ça sera vraiment perdu. Leur pays perdu et la fin. Oui, c'est ça.
Al-Qaïd Kabir Sisi, oui. Le président Sisi de l'Égypte,
oui.
A été clair et ferme. Notre, il n'accepte pas.
Notre président, vraiment, c'est un président, vraiment, un homme bien et fort. Et il comprend bien comment résoudre les problèmes. Vraiment, parce qu'il sait bien que s'il accepte ce qu'il a dit, là, Trump, là, le président de l'Amérique, là, alors vraiment, c'est fini. Fini pour l'Égypte, d'abord parce qu'il y aura des problèmes. Les Palestiniens, même au Sinaï, là, s'il vient, alors sûr, certains ne vont pas laisser leur pays. Ils vont faire des problèmes avec Israël. Et ça, c'est d'un côté. D'autre côté, alors l'Égypte, ils ne vont pas le laisser seul. Ils ne vont pas le laisser seul. Ils vont aussi réagir pour trouver une solution. Alors là, la solution avec Israël, je crois que ce sera une deuxième guerre. Alors, ce n'est pas la peine.
Déjà, l'armée égyptienne a de gros problèmes dans le Sinaï, avec l'Irhabiyyin.
Oui, c'est ça, oui. Il y a beaucoup vraiment de terroristes là-bas. Et les terroristes, là, ils vont se réunir avec les Palestiniens pour faire la merde pour l'Égypte et pour Israël. De deux côtés. Voilà. Le hal, ce qu'il a dit là, c'est vraiment de faire vraiment revenir, d'abord aider les Palestiniens à rester dans leur pays et aider à refaire encore de nouveau Gaza. Avec vraiment ce qu'il peut, oui, et vraiment de l'aide des autres pays arabes et même les pays européens, même l'Amérique. C'est ça. C'est la seule solution de faire ça. Ce qu'il a dit comme projet là, c'est le bon projet qu'il a dit. Vraiment, c'est ce qu'il a dit là, c'est la bonne solution pour tout le monde. Comme ça, pour eux, pour les Palestiniens, pour les Israéliens même et pour l'Égypte. Voilà, c'est tout. Moi, je demande vraiment la paix pour tout le monde. Et le bon Dieu, vraiment, il reste avec tous les Égyptiens et les Palestiniens et le monde entier. Qu'ils soient en paix. Et c'est ça la très importante chose là. Que tout le monde soit en paix. L'Égypte, c'est la mère du monde.
Voilà.
Om Edonia. Om Edonia. Merci. Utahia Mas. Et vive tous les pays du monde, les pays qui vivent en paix. Vive les pays qui vivent en paix. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci.
Au revoir. Bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter ?
Oui, bien sûr, je suis M. Khaled Choker, je suis président de l'association France-Égypte 2000 à Marseille.
Et cette association, elle existe depuis quand ?
Depuis l'année 2000, c'est pour ça qu'elle s'appelle France-Égypte 2000.
France-Égypte 2000. Donc on est là devant la préfecture, pourquoi vous vous êtes déplacé avec votre communauté ici ?
Bien sûr, vous savez que la cause palestinienne, ça fait un bon moment que nous sommes le voisin de Gaza et la Palestine. Nous sommes pour la cause et c'est important de manifester. On manifeste souvent avec nos frères algériens, tunisiens et toute la communauté à Marseille, quoi, hein, et même des Arméniens, tout le monde, quoi. Mais là, c'est l'Égypte, et le président de la communauté égyptienne à Marseille, M. Mohamed El-Houfi, il a décidé que pour dire non à la transfert de nos frères Gazaouis, c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui.
Puisque vous êtes égyptien et
français, bien sûr.
Et en français aussi, franco-égyptien,
oui.
Donc vous avez déjà traité ce problème. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui se passe aussi en Égypte par rapport à l'État égyptien ? Que pense-t-il ?
Bien sûr, vous savez que le président égyptien et le gouvernement égyptien, il a déjà annoncé que solidarité avec le peuple palestinien, pas question de faire le transfert de peuple palestinien, vers Gaza ou vers n'importe quel autre pays. Alors le plus important pour nous, c'est pour dire non à M. Trump. C'est pour ça que nous ne sommes pas loin du consulat des États-Unis. On a demandé l'autorisation d'être devant, mais par rapport à la sécurité qu'on respecte beaucoup, nous sommes là aujourd'hui devant la préfecture.
Donc c'est la première fois qu'on voit la communauté égyptienne ici venir manifester avec tout ce qui s'est passé en Palestine.
La vérité, nous, la communauté égyptienne, elle est pas très nombreuse. Nous sommes à peu près 10 000 vers Marseille et 15 000 au sud de la France, à peu près. Et nous sommes pas très nombreux. C'est pour ça que aujourd'hui, mais on manifeste souvent aussi le dimanche. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, nous sommes là pour dire non à M. Trump, aussi pour saluer la position française. La vérité, le président Macron, pour nous, et prendre la même décision, et c'est, je trouve que c'est quelque chose de bien aussi.
Alors, la position du président de l'Égypte, Sissi, est-ce que vous pouvez nous dire sa position par rapport à ce comportement de Trump?
Bien sûr, il a annulé son voyage. Il a annulé son voyage à Washington pour dire non. Et les Américains, le président Trump, il a dit qu'on ne va pas aider l'Égypte. Et nous, on s'en fout. Le plus important pour nous, historiquement, on a fait la paix avec Israël. Nous ne sommes pas contre le peuple juif, mais et là, nous sommes pour le droit d'avoir deux États. Et ça, c'est très important pour l'Égyptien, pour le président Sisi, comme le président Macron, c'est la même idée. Et ça ne sert à rien du tout de parler de ce transfert, parce que nous, en tant qu'Égyptiens, en tant qu'Arabes, en tant qu'êtres humains, on refuse de faire partir les gens de leur pays d'origine, de leur pays, quoi.
On a oublié de parler du peuple égyptien. La position du peuple égyptien, comment il pense cela?
Le peuple égyptien, musulman ou chrétien, copte, et qui sont avec la Palestine, sont avec les Gazaouis, sont contre Israël et contre les gens qui font mal, l'extrême droite israélienne, en fait, le gouvernement israélien de Benjamin Netanyahu, criminel, qui fait pas mal de choses mauvaises pour la paix dans la région.
Alors, dernièrement, je ne sais pas si c'est des rumeurs, il y a eu des déplacements forts de l'armée égyptienne vers la frontière. Est-ce que c'est vrai ou...
Oui, on peut dire oui. On a peur pour la stabilité de l'Égypte, pour la frontière de l'Égypte. C'est pour ça qu'il faut être là, il faut se présenter. C'est force, hein, l'armée égyptienne parmi les meilleures armées. Mais nous, c'est une armée pour défendre le pays, ce n'est pas pour l'armée pour attaquer.
Et aujourd'hui, que penses-tu aussi de ce qui se passe en Syrie? Parce que c'est le Moyen-Orient quand même.
Oui, ça fait partie du planning, le nouveau Moyen-Orient. On espère que ça va tomber à l'eau. On espère que grâce à la conférence très bientôt dans le monde arabe, pour une fois qu'ils se mettent à être unis pour faire tomber ce planning qui je trouve que c'est très dangereux.
En fin de compte, dernière question, c'est... Ceux qui sont derrière, c'est l'armée sioniste d'Israël quand même.
C'est bien ça. Nous, on fait beaucoup de différences entre la religion juive et l'État d'Israël, raciste, et les sionistes en tant que mouvement. Et nous sommes contre l'extrémiste, toutes sortes d'extrêmes, soit extrême droite ou extrême gauche, ou soit extrême religieux, juif, chrétien, copte, n'importe quel extrême. C'est pour ça que nous sommes avec, pour la paix, bien sûr, nous sommes avec le président égyptien, en solidarité avec le peuple égyptien, avec le peuple gazaoui, le peuple palestinien, bien sûr.
Et vous êtes journaliste, vous correspondez pour quel journal ou quelle radio ou quelle télé?
Moi, je travaille pas mal de journal en Égypte, pour pas mal de chaînes ici, des chaînes égyptiennes. Et je travaille aussi à Marseille sur Radio Gazelle, Radio Soleil et tout ça, je suis de collègues. Et maintenant, je pousse pour d'autres boîtes de production.
Qu'est-ce que vous allez dire aux Marseillais?
Aux Marseillais, on dit qu'on aime Marseille. C'est une ville multiculturelle. Je suis fier d'être Marseillais, d'origine égyptienne. J'ai vécu en Marseille plus que j'ai vécu en Égypte. Et j'ai dit salam et bon mois de Ramadan. Et merci Marseille avec le soleil. Et on vient ensemble. Et c'est un très bon exemple de vivre ensemble. Et je crois qu'il faut profiter de cette atmosphère au sud de Méditerranée.
Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Et bon courage.
Merci à vous.
Oh, وديني للزينة الفلاحة مشتاق وقتلني الشوق العشق يا ابوي مش بالراحة لا العاشق ولا معشوق وديني للزينة الفلاحة مشتاق وقتلني الشوق والعشق يا ابوي مش بالراحة لا العاشق ولا معشوق من يوم ما رأيت
الفلاحة
تخطر في الغيط
الفلاحة
قلت انا حبيت
الفلاحة
وسافرت وجيت لي
الفلاحة
والشوق دوبني دوب يا مجبلي وليلته
On va pas s'arrêter là. C'est une première manifestation, mais nous allons continuer parce que à Marseille, mais pas qu'à Marseille, il va falloir aussi se relier avec d'autres villes, peut-être même d'autres pays qui ont les mêmes problèmes que nous, à savoir des logements vides et des gens qui sont à la rue ou qui sont dans des conditions insupportables en 2025. C'est comment on peut tous ensemble agir, enfin, et arrêter cette énorme spéculation qui fait que rue de la République, où nous venons de marcher, il y a des immeubles qui sont vides, il y a des étages vides depuis des décennies. Et ça, on va faire aussi des marches du vide, parce que partout dans Marseille, on peut nous dire, là, moi je sais, j'habite, mes voisins en face, l'immeuble, les deux étages au début c'est occupé, mais les deux derniers ne sont pas occupés. Et on va pouvoir repérer comme ça. Et on va aussi agir avec les élus sur la législation pour donner plus de pouvoir aux maires, comme en Belgique, avec les bourgmestres où il y a la réquisition douce, et pouvoir enfin agir. Merci, et puis le combat continue. Et je suis à l'association Un Centre-Ville pour Tous. Bonjour à tous, alors je suis Aïcha Gedjali, je suis conseillère municipale à la mairie de Marseille. On est quelques élus ici du groupe écologiste et pluriel, je tiens au pluriel. Écoutez, merci à tous d'être venus. C'est important parce qu'il y a des gens qui sont toujours à la rue là et qui dorment encore ce soir à la rue, là, à l'instant, là. Emmanuel Macron nous avait promis en 2017 que plus aucun SDF, plus personne ne dormirait à la rue. Force est de constater que la promesse n'est vraiment pas tenue. Il y a dans ce pays plus de 3 millions de logements vacants, 7 millions de bureaux vides. Voilà. Et pendant ce temps-là, les gens dorment encore à la rue. Donc les promesses ne sont pas tenues. L'État ne prend pas ses responsabilités en matière d'hébergement, alors qu'une loi existe. Une loi existe, il faut l'appliquer et nous on est là par volonté politique en fait pour faire appliquer cette loi. Voilà, tout simplement. Donc c'est que le début. Des mesures existent, un tas de mesures existent, il suffit juste d'avoir la volonté de vouloir aider ces personnes. Donc c'est que le début d'un long processus. Le collectif est créé. Et c'est que le début, d'un long processus qui va aller, je l'espère, jusqu'à son terme et jusqu'à l'application de cette fameuse loi de réquisition. Parce que c'est pour moi, c'est pour nous, c'est de la non-assistance à personne en danger. Voilà, tout simplement. Merci.
Application de la loi de réquisition. Application de la loi de réquisition. Application. La loi de réquisition.
Bonjour, moi c'est pour Attaque Marseille. On a appelé à cette manif, il n'y a pas énormément de choses à dire en plus que ce que vous avez dit. La lutte pour le logement, la lutte contre le logement indigne, elle n'a pas commencé Aujourd'hui, avec ce collectif, il y a le collectif du 5 novembre qui, depuis longtemps sur Marseille, depuis les effondrements du 5 novembre, se bat sur ce sujet. Il y a eu, les 2 et 3 novembre derniers, une belle manif et des salles archi-pleines pour des débats sur le sujet. Donc c'est important à rappeler aussi et à se bouger ensemble. Je pense qu'il y a aussi fin du mois une mobilisation de prévue à la fin du mois de mars. On est le 1er mars, c'est ça. Donc pour essayer de bouger toutes les lignes, l'application de la loi de réquisition, c'est quelque chose qui se fait quasiment jamais et qui est une des pistes à appliquer. Il y en a d'autres aussi. Il y a la rénovation, la construction de logements sociaux, le respect des lois là, en ce domaine-là aussi. Donc, c'est un des leviers et un des leviers qui n'est quasiment jamais appliqué. C'est pourquoi nous étions là aujourd'hui.
Bonsoir à tous. Moi, je voulais juste vous dire que Marseille, c'est une ville populaire. C'est votre ville. Battez-vous pour elle. C'est une ville d'immigration. C'est votre ville. Battez-vous pour votre ville. On demande pas des logements de luxe. On demande des logements décents. On ne demande pas d'être Barcelone ou Paris, on demande d'être Marseille. Ne perdons pas ni d'être notre identité. On est là à côté du port. Cette ville a une histoire, défendez-la. Marseille, c'est notre ville, et les logements à Marseille, c'est 20 logements. Donc mobilisez-vous, mobilisons-nous, et tous pour des logements décents, hein. Je ne sais pas ce que je peux vous dire de plus. Et à un moment, il va falloir réquisitionner les logements, il va falloir se battre. Et on compte sur vous pour être là. Voilà, merci.
On va vous parler pour le collectif Almomba, qui est aussi dans cette manifestation. La deuxième ville de France n'a pas à être fière. 16 000 personnes se sont retrouvées à la rue au moins une fois dans l'année. 4 sans-abri sont mortes dans les rues de Marseille ces dernières semaines. Environ 100 000 personnes vivent dans des logements indignes à Marseille. 45 000 Marseillais et Marseillaises attendent un logement social. Plus de 6 590 demandeurs et demandeuses d'asile vivent sans toit à Marseille. 21 500 foyers ont été expulsés en 2023, soit une augmentation de 23% depuis la promulgation de la loi Casbarian. On demande aussi le retrait de cette loi d'ailleurs. Et le nombre de logements vacants à Marseille explose. Environ 36 000 logements sont vides, juste pour ici. Pourtant, on ne cesse de nous répéter qu'il n'y a pas de place. Pas de place au 115. Seuls 8% des appels au 115 dans les Bouches-du-Rhône débouchent sur une mise à l'abri d'urgence. Et quand c'est le cas, l'hébergement se fait dans des conditions inhumaines. Punaises de lit, manque d'hygiène, impossibilité de cuisiner ou de recevoir des invités. Pas de place en CADA ou en foyer. Pas de place en logement social. Pas de place pour les enfants non accompagnés, déminorisés et en recours. Les personnes en précarité de papier sont les plus exposées aux formes les plus extrêmes du mal logement. Si tu ne rentres pas dans les bonnes cases, tu es rapidement abandonné par les pouvoirs publics et privé de tes moyens de subsistance. Tu n'as pas le droit de travailler, ni le droit de louer. Et cette situation, elle est invisibilisée par la surenchère raciste des politiques qui sont aujourd'hui les nôtres. De nombreuses personnes n'ont donc d'autre solution que de faire confiance à des marchands de sommeil. D'autres occupent des bâtiments vides. Nous n'en pouvons plus de voir des portes anti-squat dans les immeubles vides à Marseille, où leurs propriétaires spéculent en toute impunité. C'est le cas de toute la rue de la République qu'on a traversée aujourd'hui. Nous n'en pouvons plus de constater l'inaction des pouvoirs publics malgré nos nombreuses demandes. Nous exigeons donc des réquisitions pour que la puissance publique apporte une solution rapide aux personnes sans logement ou en situation de mal logement et cesse de laisser tout le travail aux habitantes et aux solidaires pour trouver les bâtiments, négocier avec les propriétaires. Lutter contre les investisseurs aussi, qui se fichent bien de laisser les bâtiments vides ou d'en faire des projets qui ne répondent en rien à la crise du logement à Marseille. Leurs profits ne viendront enrichir ni Marseille, ni ses habitantes. Que la puissance publique remette enfin la question de la primauté de la propriété privée, la primauté de la propriété privée lucrative sur la propriété d'usage, assumant ainsi que le droit d'usage des personnes dans le besoin est bien plus sensé que celui de la propriété privée, cultivant le vide absurde et criminel du capitalisme. Et enfin, on demande la réquisition pour constituer une première base vers la sortie du mode de gestion capitaliste du logement. Donc, commencez à penser ce que serait une véritable sécurité sociale du logement. Merci.
Bah, je voulais rappeler aussi d'autres faits. Monsieur Payan, le printemps est marseillais, lui-même, dans leur programme, ils avaient dit que la réquisition était le moyen le plus efficace pour mettre un terme à la crise du logement. Donc, qu'il assume ses positions et qu'il tienne ses engagements devant ses électeurs, qu'il procède à des réquisitions, qu'il les demande au préfet, qu'il nous montre les demandes qu'il fait au préfet. S'il souhaite, il n'arrête pas de dire, l'équipe municipale n'arrête pas de dire qu'ils ont des bâtiments vacants, qu'il les propose à la préfecture. Qui les ouvre pour justement les jeunes qui n'ont pas de place au 115, l'hébergement d'urgence est complètement saturé, dans des hôtels où les jeunes n'ont pas accès à une cuisine, ont accès à manger qu'une fois par jour, que les jours de semaine, c'est inadmissible, il y a plein de bâtiments vides, on rappelle c'est 60 000, hein, c'est genre 40 000 depuis plus de deux ans, enfin, c'est sur 460 000 logements, c'est incroyable. Monsieur Payan nous fait croire, et ses adjoints nous font croire que les bâtiments vides et vacants, c'est de la vacance interstitielle dans le privé, qu'en fait, il n'y a pas de vacances. Il dit que les bâtiments qui sont pas occupés, c'est les bâtiments qui sont en péril, les habitats dégradés. C'est pas vrai. Les habitants en péril, il y en a à peu près un millier. Les logements vacants privés, il y en a 11 000. Donc, ils nous disent, ceux qui ne sont pas occupés, ceux qui n'ont pas, qui collectent, ils arrivent à comprendre lui-même où c'est qu'ont été faits les travaux, ceux qui n'ont pas fait de travaux, ceux qui restent vacants. Sur les 20 000 logements vacants depuis plus de deux ans, il y en a la moitié qui sont vacants depuis plus de cinq ans. Est-ce que c'est normal, ça? Donc, voilà. Je veux juste que le maire prenne aussi ses responsabilités. Il peut demander des réquisitions au préfet. Il peut ouvrir ses bâtiments communaux s'il y tient vraiment à destination des personnes les plus vulnérables, dont les personnes qui n'ont pas les bons papiers, surtout eux et surtout les jeunes, qui ne sont pas pris en charge par le département. Donc, le maire a beau jeu de se défausser sur le préfet et sur le département. Il peut quand même prendre des initiatives ou nous montre qu'il en prend. C'était dans son programme. Voilà.
Se cache le capital, la lutte antifasciste est internationale.
Derrière le fascisme.
Bonjour.
Bonjour.
Mais pourquoi vous êtes arrêté là ici? Qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe?
Ouais, on va bloquer ici là.
Ah bah écoutez, faut bien faire une dépose de temps en temps.
Ah bon?
Je suis maire adjoint du 6e et 8e arrondissement.
Mais pourquoi vous êtes là alors aujourd'hui?
Non, tout simplement pour appliquer la loi. Appliquer la loi et appliquer des droits qui sont à destination de toutes les personnes qui sont dans ce pays. C'est tout simplement de pouvoir vivre dignement dans un logement décent. Je crois que ça s'arrête là. Voilà, c'est très simple en fait. Hein, Rupnik, Alexandre de mon prénom.
Merci d'avoir répondu à oui. Une petite question.
Merci à vous.
Ça va, vous allez bien?
Oui, ça va.
Alors vous tenez quoi comme banderole là?
Ben, on tient une banderole qui revendique le fait de pouvoir accéder plus facilement au logement. On a des logements vides et on trouve ça absolument scandaleux parce qu'on a des gens aussi à la rue. Et donc c'est pas normal qu'il y ait ce déséquilibre.
Et ça fait presque 20 ans que c'est le même rituel,
c'est la même bagarre.
Rien n'a changé.
Rien n'a changé.
Même avec Payan qui a promis de régler quelques miettes de logement, là, ça s'empire.
Et oui, et pourtant il a le pouvoir de le faire, puisqu'il a en tant que maire, il a des responsabilités, il peut saisir le préfet, ouais, pour que le préfet fasse le nécessaire pour loger des personnes qui effectivement se retrouvent à la rue. Et donc c'est un grand problème, effectivement, c'est un des grands renoncements de Benoît Payan, effectivement.
Là on est dans la rue de la République, c'est symbolique quoi.
C'est symbolique, hein, liberté, égalité, fraternité. Exactement. Comme on dit. Et donc la liberté de pouvoir s'exprimer, de pouvoir vivre simplement, de disposer de soi-même. Et l'égalité, c'est l'accès à tous pour tous.
Et cette rue, ce boulevard, ça nous fait rappeler à 20 ans des bagarres immenses avec un centre-ville pour tous, avec des expulsions, des familles entières qui sont mortes à proche de leur déplacement. Et vous voyez comment aujourd'hui, il y a beaucoup d'immeubles qui sont encore bloqués, qui sont fermés.
Et c'est encore les conséquences de mauvais choix, encore une fois, parce que, oui, effectivement, c'est très lent.
extrêmes, ouais.
Alors qu'il suffirait de prendre des initiatives politiques, et des initiatives politiques, c'est quand vous êtes un homme politique, positionné comme le maire, mais c'est aussi un problème plus national, donc effectivement, c'est un manque d'initiative tout ça.
Vous faites confiance au maire de Marseille ?
Moi, personnellement, écoutez, moi j'ai soutenu le printemps marseillais parce que j'étais très content de voir la gauche arriver au pouvoir et puis ça m'a beaucoup déçu. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'on a soutenu le printemps marseillais à l'origine parce que c'était positif pour nous. Regardez cette pauvre femme là-bas. Et donc du coup, on est un peu déçu. On verra ce que ça donnera aux prochaines municipales.
Vous regrettez rien du tout ?
Moi, personnellement,
Vous appartenez à un mouvement, quand même.
Mais je ne suis pas porte-parole de ce mouvement. Moi, personnellement, non. Parce que, quand même, c'était une ouverture, quoi. C'était une possibilité. Après, ça a donné ce que ça a donné.
Merci beaucoup. Hein.
Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.
Omar, alors, aujourd'hui, vous êtes là. Pourquoi exactement ?
Je pense que dans une société où il y a un manque de solidarité ou des valeurs comme la fraternité, la compassion, l'empathie sont des valeurs qui disparaissent, qui sont en pleine voie d'extinction. Mener une telle action pour rappeler que la loi est de notre côté, il faut savoir qu'on n'est pas hors la loi, parce qu'il y a la loi de réquisition, c'est une loi que le général de Gaulle a édictée, et qui nous permet aujourd'hui d'avoir des leviers. Alors qu'aujourd'hui, les bailleurs sociaux refusent de faire leur travail. L'État est défaillant, il y a des carences. Aujourd'hui, il y a à peu près 35 000, 40 000 dossiers en souffrance chez les bailleurs sociaux. On a à peu près 20 000 personnes qui aujourd'hui connaissent l'expérience de la vie dans la rue. Et qu'on a une ville qui est en train de s'enfoncer dans une grande pauvreté. Et que face à tous ces défis, il faut qu'à un moment, il y ait des consciences. Des gens qui se réveillent et qui disent oui, certainement, moi j'ai un très beau T4, j'ai un confort très relatif, je suis fonctionnaire, mais ça me dédouane pas de ma responsabilité vis-à-vis des autres, de ceux qui sont indigents, qui vivent dans la rue, qui souffrent au quotidien. Et je crois que c'est un devoir moral pour chacun de se mobiliser et surtout de dire qu'on a les moyens aujourd'hui de lutter efficacement. Et ce que je reproche par exemple aux institutions, c'est que Emmanuel Macron, depuis 2017, a mis en place son fameux plan zéro SDF dans la rue, qui est un fiasco total. C'est une coquille vide. On était dans une opération de com. Ici, vous avez le Lab Zéro. C'est un dispositif mis en place par la préfecture dans le cadre de cette fameuse opération zéro SDF dans la rue, qui, pareil, que de la com. Et en termes de bilan, de résultats, il n'y a rien. Et si vous voulez, ces défaillances, ces carences de l'État, de nos institutions, regardez le débat qu'il y a eu avec le maire de Marseille. Le maire de Marseille, c'était un autosatisfacite. Moi, j'ai fait. Mais concrètement, il n'y a rien. Aujourd'hui, il y a une réalité. Il y a un fait qu'on ne peut pas continuer comme ça. Alors, on a un contexte politique qui est explosif. On a tous ces débats sur l'identité. Regardez, aujourd'hui, on nous explique en 2025, c'est quoi être français ? Non, c'est est-ce que tous les Français mangent à leur faim, sont habillés, vêtus correctement ? Est-ce qu'ils sont aujourd'hui tous logés de façon décente ? C'est ça, le vrai débat. C'est pas de savoir est-ce que je suis français ou ne le pas. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai décidé de... Et je le dis, je suis pas quelqu'un qui est un grand privilégié, mais je suis pas non plus quelqu'un qui est dans la précarité, mais ne serait-ce qu'au nom de mon humanité, d'être là avec vous aujourd'hui.
Omar, ça fait presque 40 ans que vous êtes à Marseille, mais vous militez, pas que dans le logement, dans tous les coins. Comment vous voyez la situation 40 ans après ? Vous avez vu passer Gaudin, vous avez vu passer...
Alors j'ai pas 40 ans, mais ça fait plus de 20 ans. Aujourd'hui, il y a un recours, c'est celui d'Action Alternative. Attendre que les institutions se réveillent, que les hommes politiques se réveillent, alors là on va attendre très longtemps. Je crois que le seul recours qu'on a, c'est de mener des actions citoyennes, alternatives, comme c'est le cas aujourd'hui. Et l'évolution de Marseille, elle n'est pas satisfaisante. Entre des chefs de collectivités qui, par médias interposés, s'insultent, se menacent. Regardez dernièrement les dérives extrême droitière de Martine Vassal, qui est partie dans un débat se reconnaissant dans les valeurs du RN, par exemple. Un Benoît Paillon
à Benoît Payan qui aujourd'hui s'inquiète plus de sa réélection que ce qui se passe dans la ville. Et je crois que c'est face à tout ça, on peut dire que Marseille, avec un fort potentiel, n'est pas exploité à sa juste mesure. Et aujourd'hui, il faut une nouvelle génération d'hommes politiques, de personnel politique, qui est sincère, désintéressé, et qui prendra réellement en main les dossiers les plus chauds de la ville. Il n'y a pas de fatalité, il n'y a que des manques de volonté.
Vous voulez rajouter quelque chose, Omar ?
Merci, Camar. La seule chose que je peux dire, c'est, et j'espère que tu le mettras dans tes ondes, c'est que tu es vraiment quelqu'un de très engagé. Moi, je te connais depuis des années. Ta présence, hier, tu étais avec les Égyptiens devant la préfecture, avant les Palestiniens, pour le logement, pour les Roms, pour les migrants, pour les primo-migrants, pour les Chibani. Voilà, tu es un mec magnifique. Et je tiens à le souligner. Si on avait plus de gens comme toi, cette ville serait vraiment une ville magnifique.
Merci, Omar. Merci.
Une association qui, quand même, était parmi les deux, le 5 novembre, ils ne sont pas là.
Je ne les ai pas vus.
Ouais.
Je ne les ai pas vus. Et c'est intéressant que ce soit le collectif qui rassemble un peu tout ça et qu'on crée des rapports de force. Au moins, on a un point commun, c'est qu'on est favorable à la loi de réquisition et qu'il y a des possibilités pour loger les personnes, soit démunies de logement, comme les personnes sans-abri. On réclame d'ailleurs un local mis à disposition de suite. C'est un scandale, il y a de plus en plus de personnes sans-abri. Qu'ils aient droit ou pas au logement, il faut qu'ils aient un abri. Et puis, donc, les personnes qui attendent un logement depuis très longtemps ou qui vivent dans l'insalubrité.
Est-ce que vous croyez que Payan va tenir sa promesse ?
Ah, je sais pas, mais moi je suis toujours...
Le maire de...
Moi, je le connais bien. On s'est connus il y a très longtemps.
Ah oui.
Alors, je peux le dire, hein. Benoît, tiens ta promesse, il faut que tu ailles vers la réquisition et que tu fasses pression avec nous, bien sûr, avec le préfet. Le préfet, il réagira comme ça, c'est normal, c'est un fonctionnaire. Il prend correspondance avec le ministère concerné, et puis s'il y a un rapport de force favorable, on peut débloquer des logements.
Ouais. Et là, y a beaucoup de partis ici, il y a le LFI, il y a Sébastien Barre. On ne sent pas un peu l'odeur des élections ?
Ben oui, je pense. Mais c'est à travers les élections aussi qu'on fait un peu bouger les choses. Moi, je ne crois pas qu'on puisse faire bouger qu'à travers les élections. Mais les élections peuvent favoriser des mobilisations, donner un peu d'espoir aux gens. Et après, bien sûr, il faut appliquer.
Il y a combien de logements vacants ici, à Marseille ?
Il y en a quelques milliers. On peut toujours discuter parce qu'il faut faire attention sur les chiffres. Ouais. Il y en a qui ne sont pas, en fait, habitables. Bon, là, c'est vrai qu'il y a un projet de rénovation qui est, à mon avis, sans précédent, à ma connaissance, parce que moi, je ne suis plus à Marseille, je ne suis pas toujours au courant de tout. Donc, les logements vacants habitables, en général, ils sont du privé. Mais le privé doit aussi favoriser le relogement. Après, s'ils vendent le logement, qu'ils récupèrent le logement, ça va. Mais si on fait une menace sur le privé, alors qu'on joue que sur la spéculation immobilière dans le privé, ça, c'est pas possible. Un logement doit loger.
Et avec l'augmentation de ces logements, ça risque pas l'augmentation aussi des logements Airbnb ?
Eh bien là, il y a une réglementation. Normalement, ça devrait freiner. À mon avis, la réglementation n'est pas assez sévère. Donc, Airbnb, pour moi, c'est inacceptable. C'est pas possible. Ou alors, il faudrait qu'il y ait une autorisation pour Airbnb s'ils sont capables de mettre à disposition 10 logements, par exemple. Une monnaie d'échange. Tu as le droit de faire ton petit fric. Là. Voilà, même si moi, je trouve ça scandaleux, mais tu nous offres 10 logements. À ce moment-là, on peut discuter. Airbnb, j'ai toujours lutté contre l'Airbnb. Le coup de gueule et les actions faites par la mairie contre tout Airbnb, c'est chapeau. C'est pas possible. Les Marseillais n'arrivent pas à se loger. Et puis, ils louent à des prix exorbitants des taudis, souvent. Ça, c'est pas possible. Moi, je souhaiterais la fin d'Airbnb.
Rappelez-moi votre prénom et mouvement.
Marc Castellano. Notre mouvement, le plus ancien, c'est VLED. C'est trois associations qui ont fusionné. Vie et Terre Application qui s'est toujours occupée des sans-abri, les Amis de la Terre qui nous ont rejoints et Droit au logement, le DAL, ce qui en reste. Donc,
okay. Il est toujours vivant, le DAL.
Il fait ce qu'il peut. Ils se sont regroupés à Marseille, ils font ce qu'ils peuvent. Voilà, et par contre, on soutient complètement cette initiative qui n'est pas de nous. Mais parfait.
Je parle du DAL parce que le DAL a commencé beaucoup de combats.
Absolument, oui. À une époque où il y avait des rapports de force, mais après, c'est sûr que face à un maire intransigeant, on pouvait difficilement avancer, bien que c'était mon ancien voisin.
Merci d'avoir répondu à nos questions.
Je t'en prie, merci beaucoup.
Dylan sur les ondes de Radio Galère 88.40. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise. He's not selling any. Juste après la chanson, il y aura.
Merci de commencer à lutter. Je sais que c'est un grand pont, mais je vous assure que c'est comme ça que ça commence.
qu'on commence à les laisser faire et on n'arrivera plus à les arrêter. Qui aurait pensé aujourd'hui que ce qui se passe en Ukraine, ça aurait pu arriver? Qui aurait pensé aujourd'hui que l'Algérie aurait pu se réveiller et lutter contre le colonialisme? Qui aurait pu penser aujourd'hui que les Kanaks se réveillent à leur tour? Qui aurait pu penser aujourd'hui que le capitalisme est en train de s'effondrer? Eh bien ça, c'est grâce à vous, grâce à chacun et chacune d'entre vous qui continuez de vous réveiller, qui continuez de lutter et qui continuez de vous lever contre toute cette oppression, la domination des puissants. Et pour ça, merci beaucoup Marseillais et Marseillaises.
Il y a le départ donc, de la 6e marche mondiale des femmes. Donc, nous allons manifester ensemble au Réformé Canebière, 14h, avec en tête de cortège donc, le lancement de la marche mondiale, dont le collectif soutient depuis les années 2000, parce que le collectif 13 droits des femmes s'est créé à la suite de la première marche mondiale. Donc voilà, donc on est 12 associations du collectif, plus tous les signataires de la grève féministe. Donc c'est un grand rassemblement, donc sur les mêmes valeurs, hein, bien sûr, laïque, universaliste, abolitionniste, et on soutient bien sûr toutes les femmes du monde entier, international. Donc il va y avoir 4 étapes pendant la manif, avec 4 sujets, on va dire, d'actualité, sur l'égalité salariale, bien sûr, sur les violences faites aux femmes, la marche mondiale qui finira la manif, sur les migrants ici, voilà, les droits des migrants face à la Méditerranée. Pour finir à la place Gisèle Halimi avec la marche mondiale qui fera un texte pour lancer la marche mondiale et sur l'international et la paix surtout dont nous avons énormément besoin puisqu'aujourd'hui il y a plus de, je ne sais plus combien il y a de conflits et on sait que ce sont les femmes les premières victimes de guerre, que ce soit en Palestine mais aussi nous ne faisons pas de différence entre les femmes. Toutes les femmes, nous défendons les femmes du monde entier, tout continent, tout pays confondu, que ce soit les Congolaises en ce moment qui sont violées, tuées, que ce soit les Afghanes, que ce soit les Iraniennes, que ce soit les Palestiniennes, que ce soit les Arméniennes, les Israéliennes, toutes les femmes. Voilà, c'est l'universalisme, c'est ça. C'est-à-dire que toutes les femmes du monde entier doivent avoir les droits à disposer de leur corps, droits à l'expression, droits à la vie, droits à l'égalité dans tous les domaines. Voilà. Je laisse aussi la parole à Alexandra Brochu, donc présidente du collectif 13 droits des femmes.
Pardon, peut-être je vais intervenir sur la marche mondiale. Donc évidemment, il n'y a pas de souci. Donc Auria Mekrelouf, donc sur la marche mondiale des femmes. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que tous les 5 ans, toutes les femmes du monde entier décident de marcher ensemble dans leur pays et autour du monde. Donc nous, ce que nous faisons, la délégation France, c'est que nous avons décidé de faire au mois de juin, le 13, 14, 15 juin, le rassemblement européen à Marseille. Donc dans le détail, on refera une conférence de presse avant, pour annoncer cet événement. Mais nous souhaitons effectivement travailler, comme toutes les femmes du monde entier, évidemment contre les violences faites aux femmes dans tous les pays, dans tous les secteurs, mais également contre la guerre, comme l'a dit Alexandra, il n'y a aucun souci. Et également, ce que nous proposons, c'est que les femmes soient aussi dans les situations de résolution de conflits. À aucun moment, les femmes ne peuvent porter leur parole quand il s'agit de conflits armés, de conflits de tout ce qui concerne les horreurs qui se passent sur tous les continents, parce qu'aujourd'hui, aucun continent n'est épargné. Aucun. Et donc nous demandons évidemment à ce que cessent tous les conflits, cesser le feu partout, et qu'on arrête, et que les résolutions de conflits soient intégrées la parole des féministes pour dire, parce que nous avons aussi des solutions qui ne sont jamais entendues. Donc on dit stop à la guerre et oui à ce que les femmes soient partie prenante de la résolution des conflits et de la façon dont on doit se comporter dans les sociétés. Voilà, donc ça c'est important.
Je veux quand même ajouter qu'il y aura aussi un atelier, et c'est très important en ce moment, par rapport aux femmes migrantes. Parce que vraiment, si on prend la dernière séculaire au Taillot, c'est les femmes qui ont le plus souffrir de l'immigration. Et avec le pacte européen immigration, puisque c'est une étape européenne, bon, c'est aussi grave ce qui va se passer. Oui. Toutes les attaques de Retailleau qui surfent sur la vague de l'extrême droite, parce qu'il faut le dire, c'est ça qui se passe actuellement. Bon, on se bat contre ça. Nous, on est pour la polarisation de tous, pour la reconnaissance. Chaque être humain a le droit de vivre où il a envie de vivre, de travailler où il a envie de travailler. Il faut inclure dans la Convention de 48 des droits humains universels, il y a le droit de mobilité, mais il n'y a pas le droit d'installation. Voilà, et nous on se bat aussi pour ça. Droit de circulation et droit d'installation. Voilà. Moi, je pense que c'est important de le dire parce qu'on vit dans une période actuellement où l'extrême droite au niveau européen, on ne parle pas de Trump hein, parce qu'on va en parler des heures, hein, mais je veux dire au niveau européen où la fascisation dans les États, dans les pays européens de plus en plus grande et où dans notre pays on voit une montée de plus en plus grande de gens décomplexés qui se permettent d'attaquer des gens qui sortent d'un film, par exemple, de Costa Grava, quitte à poignarder par exemple, un copain de la CGT et tout. On est dans ce climat de violence qui est intolérable avec des idées nauséabondes. Et ça, on ne peut plus le supporter.
Vous pouvez rappeler votre nom et votre prénom ?
Bon, je m'appelle Isabelle Marilly.
Okay. Et pourquoi c'est important pour vous, du coup, de marcher là, le 8 mars, alors que justement, il y a cette montée actuelle de l'extrême droite dont vous parlez justement Pourquoi est-ce que c'est important?
D'abord, le 8 mars, c'est une journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Donc, qui est quand même historique, je veux dire. Donc, avec tous les jours, oui, c'est pas que le 8 mars qu'on se bat, mais bon, le point d'orgue, entre guillemets, dans tous les pays, c'est quand même le 8 mars. Ben, c'est important de marcher parce que, bon, pour dénoncer toutes les inégalités qui existent, hein, là, on a parlé, l'égalité salariale, au niveau de la santé, au niveau de la charge mentale, etc. Bon, voilà. Et puis, bon, Et puis on marche aussi pour les migrantes. Enfin, moi je suis dans les trucs des migrants et je vois les galères qu'elles subissent. Et quand on sait qu'au niveau des CADA, par exemple, les centres d'asile pour les demandeurs d'asile, eh ben, la trêve hivernale, ça n'existe pas. C'est-à-dire que bon, même s'il fait très très froid, mais qu'elles ont été déboutées, on leur donne encore un mois et puis on les met dehors. C'est inadmissible des choses comme ça. Que devient l'être humain? Parce que c'est ça, c'est une déshumanisation actuellement de notre société. Voilà, et nous, on veut que l'être humain, eh bien, il vive pleinement sa vie, quoi. Il a une vie décente. Bon, moi, je suis aussi au réseau Université Sans Frontières, et on voit qu'actuellement, dans les facultés sur Aix et Marseille, il y a une montée de plus en plus grande des étudiants d'extrême droite. Voilà, donc on est inquiets. Voilà, on est inquiets.
Bah, sur l'extrême droite, en l'occurrence, c'est l'ennemi des femmes. Hein. Ça a toujours été, dès que l'extrême droite arrive au pouvoir, on le voit en Italie, hein. On a un exemple très proche, très récent, où tout de suite, c'est empêchement de l'IVG, c'est l'égalité de salaire, on n'en parle même pas, c'est retour à la maison des femmes, c'est-à-dire plus de travail, plus de droits. On est là, il y a cette petite musique sur l'Europe avec la natalité, on fait moins d'enfants, donc allez, on remet les femmes au foyer et on les incite par diverses avec un salaire de femmes au foyer, c'est-à-dire on revient dans des choses, des reculs de société inimaginables, quoi. Donc l'extrême droite, malgré leur ripollinage de surface, savoir tout ce qu'ils ont voté au niveau de l'Assemblée contre la hausse du SMIC, ouais. Toutes les lois faites au niveau européen, par exemple, tout ce qu'ils votent, c'est contre les femmes, systématiquement. Donc il faut arrêter de penser que parce que Marine Le Pen est une femme, qu'elle va soi-disant faire progresser les droits des femmes, c'est totalement faux. D'ailleurs, Mélanie est une femme et, pareil, l'extrême droite est l'ennemi des femmes. D'ailleurs, on s'est rassemblés lors des législatives, on peut en parler. Heureusement que les mouvements féministes, cette fois-ci, se sont mobilisés et se sont positionnés, on a été là sur le Vieux-Port, pour dire non, barrage à l'extrême droite. Voilà. Et comme tu le dis, au niveau national, une petite musique de la droite, même qui dérive, qui trouve des points communs avec l'extrême droite, etc. Non, non, non. Les féministes que nous sommes seront toujours là contre l'extrême droite. Ce n'est pas possible en France. Il n'y a toujours pas de ministère des femmes depuis des années. On l'attend. Il n'y a toujours pas les moyens pour lutter contre les violences, les fameux 3 milliards qu'on demande. Il n'y a rien. Pour la prostitution, pour la lutte contre le système prostitution, il n'y a pas les moyens qui sont mis en œuvre, alors qu'il y a de plus en plus de jeunes femmes, aujourd'hui étudiantes, etc. C'est exponentiel de jeunes femmes qui se prostituent pour des raisons économiques. On revient encore à l'égalité des salaires, etc. Donc il est plus possible qu'aujourd'hui, il y ait encore 20% d'écart de salaire, sachant qu'après il y a les retraites, on est en train de parler des retraites, savoir que quand on n'a pas l'égalité des salaires, c'est des retraites encore plus petites, etc. Donc les femmes sont en première ligne et je tiens à souligner très fortement que les femmes ne sont pas une minorité. Les femmes sont la majorité, donc il faut que les femmes l'entendent. Nous sommes la majorité, donc nos idées aujourd'hui elles doivent devenir majoritaires.
Je voudrais ajouter un mot et bravo, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est tout à fait effectif qu'aujourd'hui le ministère des droits des femmes n'est plus le ministère de plein exercice qu'il a été dans le passé et que ça change tout. Nous avons des ministres qui quelquefois ne tiennent pas, des ministres des droits des femmes ou des secrétaires d'État qui quelquefois ne durent que 6 mois. On ne peut pas faire des politiques publiques de cette manière-là. Et ça m'amène à soulever un sujet qui est un sujet qui inquiète énormément les coordinations associatives et les grosses associations aujourd'hui. Là, je sors d'un CA d'une association. On se demande, nous sommes très inquiètes sur la question des subventions, qui sont des subventions que nous percevons pour faire des actions publiques que l'État ne peut pas prendre en charge, qu'il n'a pas les moyens d'assumer. Nous sommes très inquiètes sur le devenir de ces subventions. Et quand on voit ce qui se passe au niveau du vote du budget, quand on voit les coups de boutoir qui sont menés contre les politiques sociales, quand on voit ce qui est en train de se passer aux États-Unis, quand on voit ce raz-de-marée, pas tellement de politiques d'extrême droite, mais des idées que porte socialement l'extrême droite et de mépris de tout ce qui est social, nous sommes extrêmement inquiets et inquiètes. Et ça, il faut vraiment soulever cette question des politiques publiques et des subventions qui sont accordées aux associations. Ici à Marseille, on a la chance d'avoir une mairie qui est à l'écoute, qui nous suit et qui travaille avec nous et d'avoir des élus qui sont attentifs à ce qui peut se passer sur le terrain. Comment il pourra en être autant dans cette ville qui est quand même une des plus pauvres de France? Donc il faut absolument que cette question des subventions publiques, elle soit portée, et le 8 mars c'est aussi le jour de dire respectons nos associations féministes, respectons ce beau mouvement féministe que nous avons créé, que nous avons porté depuis si longtemps aujourd'hui.
Et voilà, il est 17h50 sur les ondes Radio Galère avec la compagnie des Raga. Donc il me reste qu'à vous dire à jeudi prochain. J'espère que vous avez bien écouté l'émission, vous avez bien suivi. Bien sûr, il y avait de tout, il y avait la musique, il y avait les chansons, il y avait les interviews, il y avait des reportages. Alors vous vous êtes régalé. Je vous dis au revoir à jeudi prochain. Ciao.
Donc après je veux dire, on parle de
quand Bérou se permet de parler de submersion, migration, c'est une submersion de l'extrême droite. Hein. Voilà, il faut le dire. Hein.
Et ce que je veux rajouter aussi juste ça, c'est que les féministes, effectivement, nous ne sommes pas les femmes ne sont pas une minorité. La parole féministe doit se faire entendre. Et les féministes sont antiracistes. C'est très, très, très important de le dire et de le rappeler chaque fois.
Oui, antiraciste et antifasciste, c'est sûr. C'était Geneviève Courault qui a parlé tout à l'heure. Moi, je suis Christine Mead, donc pour Attac Marseille. Pour sur l'aspect économique, donc on réclame une revalorisation des métiers féminisés. Et déjà, une première mesure qui serait l'augmentation du SMIC serait extrêmement favorable à l'égalité homme-femme, parce que les femmes représentent 62% de toutes les personnes payées au SMIC. Et donc, ça ferait déjà monter, enfin, ça ferait diminuer la différence, par exemple. Et c'est pas le chemin qui se prend actuellement.
C'est pareil au niveau de l'éducation, hein, notamment dans les universités. Hein. Les filles qui arrivent étudiantes, elles sont biologie. Et les garçons, elles sont maths info. Bon, voilà, on sectorise aussi les formations par rapport aux genres. Ça, c'est aussi inadmissible.
الشيخ الحاج الغفور اخوكم صحفتكم
اشتناقني بحبها مسكن بالي اه يا الغالي وماني في وصولها سبيل من لداق الغرام والعشق بحالي اه يا الغالي وبعد الرغبة مع الدخيل مولة السالفة الطويل لما نشكي بنياتي شعلت نيران مهجتين صبت القلب ما قوى عمدني في الزمان وحدي وعمداني اه يا غالي